Bienvenue à votre podcast Protège ma promesse pour ce 9e épisode. J'ai aujourd'hui la joie de rencontrer le père Hervé Tabourin, prêtre de la Sainte-Croix de Riaumont et éducateur à Riaumont depuis 1983. Bonjour mon père.
Bonjour.
Nous parlerons ensemble des mouvements scouts qui ont fait le choix de la liturgie traditionnelle. Pour commencer, j'aimerais remonter aux causes. Qu'appelle-t-on la contre-réforme qui a eu lieu entre les années 1964 et 1971 ?
Ah oui, alors le terme pourrait prêter à discussion. Est-ce qu'il y a une réforme? Est-ce qu'il y a une révolution? L'historien aujourd'hui s'accorde à parler de, quand même d'une réforme très importante. Et ce qui est moins connu, c'est les sept années de 64 à 71, où s'est mis en place en fait toutes les racines et les acteurs de ce qui va être une sorte de contre-réforme au sens de la contre-réforme peut-être tridentine, mais surtout au sens de la garder et retrouver l'expérience des scouts de France, des origines, sans suivre cette réforme qui a été imposée donc à partir de 1964.
La réforme Pioneer Rangers.
Oui, tout à fait. On disait même quelquefois rampion, les pauvres rampions, c'est Rangers pionniers. Le mot Rangers, qui d'ailleurs ne se voulait pas du tout en référence aux brodequins de l'armée, mais aux références aux gardes forestiers américains, va être abandonné à partir de 1979 et les scouts de France aujourd'hui parlent, et depuis 1979, ont rebaptisé cette branche en tant que scout. Mais ce n'était pas son programme, en tout cas sa pédagogie à l'origine. Dans les années 64, on veut vraiment séparer les 12-14 et les 14-17, qui seront les pionniers, qui eux auront une promesse scout et un peu dans la ligne des scouts précédents et notamment c'est une question assez discutée, mais certaines filiations avec les raiders aussi, assez âgés. En tout cas, cette expérience Rangers pionnier a pu séduire, mais pour ceux comme Claude Peignot à l'époque qui écrivent dans ses revues, ce n'est plus du scoutisme, il faut qu'on sache, dit-il. Alors, un des premiers articles, puisque nous, l'homme nouveau, tout honneur, tout seigneur, tout honneur, les premiers articles, donc c'est dans juin 64 qui paraît dans l'homme nouveau à l'époque de Marcel Clément. Un ancien CT de la première Paris, donc, alerte en disant attention, il se passe des choses chez les scouts de France. Et c'est pas la première fois qu'il y a des évolutions et des propositions, mais précisément la proposition Raider qui était la grande. Qui a beaucoup augmenté les effectifs dans les années 50 avec Michel Menu, était une proposition. Là, c'est une imposition. Et sous le débat va être, pendant ces années-là, savoir si c'est une possibilité ou c'est une obligation. Donc voilà, on parle à ce moment-là, ça devient une réforme obligatoire. Et le temps que les scouts unitaires qui étaient encore au Scout de France se rendent compte, il va se passer des années capitales où peu à peu vont se détacher certains groupes jusqu'en 71, donc où sera le lancement pour les derniers unitaires des SUF, alors qu'il y a eu déjà d'autres mouvements lancés entre deux.
Et donc, parmi ces mouvements qui se forment en réaction à cette réforme, il y a les scouts Saint-Georges, il me semble. Comment se sont-ils montés? Comment se sont-ils organisés?
Alors, oui, en fait, il faudrait parler avant, et c'est toute une histoire à écrire, des réactions qui a eu lieu autour de trois grands ensembles de chefs et de revues. Michel Menu, tout en n'étant pas fondamentalement opposé, va chercher à orienter ses scouts-mestres vers une revue qui s'appelle « Réflexion des scouts-mestres ». Mais croit encore qu'on pourra, comme en Belgique ou dans d'autres mouvements internationaux aujourd'hui, garder et des unitaires et des pionniers rangers dans la même association, ce en quoi il va se tromper. Mais c'est ça qui expliquera que ces critiques seront toujours assez mesurées, alors que d'autres, comme Claude Peignot, j'ai cité, Marie-Claire Gousseau dans son livre « Scout ou pionnier, les raisons d'un choix », d'autres noms qu'on va citer qui vont retrouver à l'origine des Saint-Georges vont d'abord créer une sorte de comité des mille. Alors ça, c'est un terme un petit peu mystérieux qu'a étudié notamment Lionel Christian dans son travail de maîtrise mais qui était assez peu connu. Une association aussi des soutiens du scoutisme. Ça tourne autour du groupe Saint-Louis à Paris. Beaucoup d'anciens chefs vont écrire, vont alerter, vont essayer de faire pression, vont essayer de soutenir surtout ces chefs de groupe, les chefs de troupe qui veulent rester unitaires, avec le problématique d'ailleurs des camps de l'école et des revues. C'est comme ça qu'on va voir des noms comme Henri d'Avernas, Pierre Delsuc, Pierre de Montjamon et Michel Menu signer un autre livre capital. On est déjà en juin 67, les bases fondamentales du scoutisme que les SUF continuent à proposer comme une petite brochure résumant l'essentiel du scoutisme. On a là affaire à quatre brevetés députés chefs de camp, camp de chef de Gilles Welpark, qui ont une vraie autorité, qui ont formé des stagiaires depuis tous les stagiaires, pratiquement entre 33 et 39, hein, 500 chefs scouts, dont 250 rien que par Pierre Delsuc, après le père Sevin Chamarande. Michel Menu, lui aussi, a lui seul a formé près de 800 chefs de troupe, hein, il dirigeait 20 Chamarandes de 48 à 56. Donc c'est des gens qui ont une vraie autorité et qui essayent de faire pression pour que le quartier général n'impose pas sa réforme et laisse la possibilité de garder l'unité des patrouilles. Au-delà de la couleur des chemises, hein, c'est fondamentalement c'est la question de l'exemple du frère aîné, de la pédagogie du jeune par le jeune, mais avec une certaine dans le sein des patrouilles qui est mise en cause. Voilà, donc les Saint-Georges vont à un moment, en 60, d'abord, ces chefs que j'ai cités vont d'abord essayer de tenter leur chance dans les scouts d'Europe qui sont nés quelques années auparavant, qui ne sont pas nés d'une scission, mais qui vont récupérer ou beaucoup augmenter leurs effectifs. On va les retrouver dans les premiers postes de commissaire, par exemple François Klotz, un collaborateur de la revue Route de Demain, cofondateur de l'association pour le soutien du scoutisme, était le premier commissaire éclaireur national en 67 à la FSE. Marie-Claire Gousseau, sous ce pseudonyme de Claude Courtois qui avait lancé ce premier livre, va se retrouver commissaire des guides aussi. Et plusieurs comme ça vont s'engager, mais ça va ne durer qu'assez brièvement, puisque en fait, ils ont essayé de un petit peu comme la VSE de l'époque avait été noyautée, entre guillemets, c'est plus Jean-Claude Alain, c'est maintenant c'est Pierre Giraud et sa femme. Qui, avec leur effectif de blémor, c'est-à-dire de scouts venant de Bretagne, avaient pris la majorité. Et une assemblée générale en 68, où en fait, les scouts de France, de l'ancienne génération qui ont investi les scouts d'Europe, pensent pouvoir faire la même chose. Et en fait, ils vont se heurter au poids de Géraud Kerraud et ils vont jeter l'éponge et laisser tomber leur essai des scouts d'Europe. Et c'est cela qu'on va retrouver au Saint-Georges. Alors, vous parlez des Saint-Georges. À Riomont en 68, c'est une réunion hein, en présence de Pierre de Montjamon, hein, donc le père Revet, notre fondateur, mais aussi Montalbetti, Claude Peignot, Marie-Claire Gousseau et Irène Rivière. Et ils vont décider avec Hubert Verlet, qui était un des premiers, il a fait son premier chemin en 1922, vous voyez, avec le père Sevin. C'est lui qui avait traduit le Stanley Patrouille en français ou la brochure de Roland Phillips. Et lui, pareil, après avoir initié le 64 à la FSE, ils vont ensemble faire ces scouts de Saint-Georges pour simplement continuer ce qu'ils avaient connu au scout de France, surtout avant-guerre pour cette génération-là. Alors que bon, le côté européen de la FSE n'était pas forcément dans leur ADN, comme on dit maintenant. Et donc, voilà, ils veulent juste reprendre les textes du père Sevin et continuer les scouts de France, puisqu'ils ne peuvent pas le faire de l'intérieur, ils vont faire les scouts de Saint-Georges. Côté uniforme, on a un uniforme bleu, la couleur beige-marron du short, c'est introduit à l'époque des raiders, hein, mais c'était avant-guerre, c'était le bleu marine. Par contre, il y a une nouveauté, puisqu'il s'agit maintenant de scouts et guides Saint-Georges, par économie de moyens, probablement, les louvettes que les scouts d'Europe avaient introduites, et ça c'est nouveau, vont être repris au scout de Saint-Georges. On les retrouvera dans beaucoup de mouvements après. C'est plus simple d'avoir la même pédagogie, garçons et filles, pour la branche cadette. Donc non plus les Jeannettes des guides de France, que par contre garderont les SUF. Voilà. Alors, parmi ces personnalités des scouts de Saint-Georges, on peut citer M. Asselineau, François Asselineau, qui a fait une grande carrière après de haut fonctionnaire et même essayé dans la politique. mais surtout le jeune Michel Debray, qui va devenir un commissaire national éclaireur des scouts de Saint-Georges. Alors c'est vrai que les scouts de Saint-Georges, c'est un peu une histoire qui est encore à écrire. Hein. Le père Combeau, Yves Combeau, a un peu défriché ça, il écrivait dans son livre... Bien que les scouts de Saint-Georges soient devenus en nombre le quatrième mouvement catholique français, ils restent encore très mal connus. À la fin des années 80, c'est un chiffre à quatre chiffres, enfin un effectif à quatre chiffres, plus de 1500 membres. Donc une centaine d'unités pendant 33 ans, et dans 30 ou 40 villes, ça fait forcément beaucoup d'anciens, mais qui curieusement n'ont pas vraiment laissé de traces, si ce n'est, on va voir, cette filiation des premiers fondateurs vers les scouts catholiques de France, puisqu'en 80, un noyau va se détacher de Scouts de Saint-Georges et va fonder autour de la messe traditionnelle un nouveau mouvement, mais pour eux, qui est toujours la même continuation du même combat.
Donc vous parlez des scouts et guides catholiques de France, et c'est à partir de ce moment-là que les questions liturgiques apparaissent.
Oui et non. Oui, en 80, là, la question est bien claire. En fait, dans les scouts de Saint-Georges, il y avait déjà deux tendances. Alors, on parle de scout numéro 1 ou numéro 2 ou A et B. Une tendance majoritaire, certes classique, mais avec Michel Debray et Hubert Verlet jusqu'à sa mort. Mais la tendance plus traditionnaliste qui va fonder les scouts catholiques de France... elle n'est pas encore vraiment concentrée sur la question liturgique, hein. Cristallisée en tout cas sur le rite de Sainte de à l'époque. Il s'agit bien sûr de certains classicismes dans la liturgie traditionnelle, hein. Mais bon, rappelez-vous, la mise en œuvre du Nouvel Ordo, c'est le premier dimanche de l'Avent 1970. À l'époque, il y a quelques vieux prêtres qui résistent, mais on commence à se diviser un peu là-dessus. Au congrès de Lausanne, les pères de Chabeuil ou l'abbé Guérin qui a fondé la communauté Saint-Martin prennent des positions différentes d'itinéraire et de Madiran. On hésite, même Jean Housset hésite au moment de sur une prise de position, Marcel Clément également d'ailleurs. Et donc cette question de la messe va traverser après, mais il ne faut pas faire d'anachronisme. Les Saint-Georges numéro 1 ou numéro 2, deux qui sont pour une seule association, il n'y a pas de différence, si ce n'est dans certaines revues. On trouve des revues de Irène Rivière, qui est la commissaire louftisme, avec son adresse, et des revues Pattes de Loup, c'est la revue des Saint-Georges, avec une autre adresse. Donc ça, c'est assez curieux, les collectionneurs s'arrachent un peu les cheveux. Mais, je n'ai pas parlé des titres de revues. Les revues, c'est leur appel Saint-Georges pour les scouts et Au Vif pour les chefs. Donc il y a quand même deux courants, mais c'est plus pour des histoires d'exigence, d'exemplarité des chefs. Hein, est-ce qu'on tolère l'alcool ou les cigarettes au kraal, par exemple, que vraiment encore des questions liturgiques. Par contre, effectivement, en 80, là, effectivement, c'est, la division va se faire nettement sur avec la Saint-Georges qui était plutôt traditionnelle, sur la messe. Et du coup, l'autre moitié des Saint-Georges va continuer son histoire, hein, elle continue même longtemps. Ça se terminera par, à l'époque du commissaire Bertrand Saint-Loup-Herbier, ancien de l'FSE de Nantes d'ailleurs, par une sorte d'intégration dans les SUF en 92. Hein. Il y avait des journées nationales à Toussaint régulièrement depuis 1974 à Solesmes. Mais en 91-92, alors c'est pas vraiment une fusion, il y a que deux groupes qui ont rejoint cette année-là les SUF. Mais les Saint-Georges qui restaient donc non traditionnels vont au début des années 2000, les derniers groupes à Bordeaux, à Marseille, rejoindre leur tour les SUF. Hein. Donc là, on a une histoire d'un mouvement qui se divise en deux et qui, par ses tendances un peu naturelles, rejoint deux autres mouvements. Et c'est là, effectivement, vous avez raison de m'interroger à la suite sur qu'est-ce que c'est que les scouts catholiques de France. On a... Déjà dans l'insigne, ceux qui remarquent les insignes, hein, on a rajouté juste la croix protoncée, mais on retrouve le même insigne que les Saint-Georges, le fameux chrisme des premiers chrétiens sur la fleur de lys, hein, et c'est voulu cette filiation. On retrouve dans ces fondations alors il y a la question de nom aussi. Pendant plus de 15 ans, on parlait couramment des cathos de France. En fait, effectivement, il y a une histoire de nom qui va être contesté par les scouts de France. D'ailleurs, on va retrouver le nom de l'avocat Claude Peignot, avocat au Conseil d'État, hein, du côté des réfractaires, et un procès qui l'opposait aux scouts de France et aux guides de France, qui va donner, en fait, qu'en mars 97, le nom va s'appeler Association française de scouts et guides catholiques. Enfin, les gens disent toujours le même nom. Et au-delà du nom, ça correspond quand même à un courant bien précis dans l'Église de France à ce moment-là. Triple fidélité, donc traditionnelle, au scoutisme, à l'Église et à la France, avec un effectif remarquable, hein. On a une durée sur une vingtaine d'années, donc des générations de chefs, hein. Près de 2000 membres, des camps de formation réguliers, ça c'est à noter aussi. Donc là, on a un vrai mouvement qui n'est pas groupusculaire, mais qui reste un effectif quand même à trois chiffres, hein. Trois ou quatre chiffres. Voilà. Alors, il y a un nom qu'il faut citer chez les scouts catholiques de France, c'est Pierre Monnet, qui est commissaire général de 82 à 2000, donc une longue période, hein, qui va développer l'association comme un mouvement structuré, non pas comme une fédération de groupe. Au début, ça avait permis l'intégration des groupes, comme on en parlera, par exemple, des cadets de France. Hein. Et puis, il y a eu des camps et écoles, surtout et avec l'Office, pendant de nombreuses années. Hein, ils en sont au 40e camp et école. Alors, l'Office, c'est une structure de formation inter-scout, enfin d'initiative scout plutôt. Alors, bon, c'est un clin d'œil aux œuvres auxiliaires de l'Office de la rue des Renaudes, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour le scoutisme et c'est un exemple de formation commune entre plusieurs petites associations. Qui était assez rare à souligner, et puis surtout qui a duré 40 ans, c'est plus qu'une génération. Maintenant, on a des chefs qui sont les fils des premiers stagiaires. Avec quelquefois des BAFA d'ailleurs, des formations pendant des années, ça donnait une formation BAFA complémentaire de la formation de camp école. Alors, Cato de France, il y a le problème bien sûr des sacres au moment de 88. Hein. Certains demandent l'approbation des sacres de Monseigneur Lefebvre. Ou d'autres ne veulent pas prendre position. Finalement, la position de Pierre Monnet et de l'association sera de refuser de s'engager sur ce terrain, estimant que catholiques avant les sacres, les aumôniers et ses unités l'étaient vraisemblablement après. C'est une citation du rapport de l'époque. Donc vont coexister là encore une nouvelle division, entre guillemets, mais en bonne entente, chacun suivant son aumônier.
Donc
Les
les
revues
aumôniers de la Fratrie Saint-Pilice et
Saint-Pilice et ce
les
qui va devenir la Fraternité Saint-Pierre, qui n'est pas à l'époque forcément évident, et Riaumont, sachant que en fait on va avoir un mouvement des aumôniers de la Fraternité Saint-Pierre davantage vers les Europa Scouts, dont vous parlerez plus tard, et donc qui effectivement à la longue va finir par aspirer tout ce qui est Fraternité Saint-Pierre et déséquilibrer l'équilibre peut-être de ce qu'étaient les scouts catholiques de France. Au niveau des revues, de notre mieux, donc c'est encore, puis après quelques pattes de loup d'Irène Rivière qui a continué un petit peu. Une revue scout que l'abbé Cottard avait lancée comme intertroupe à Écône à l'époque, avec Riaumont et différentes petites associations, qui va devenir Scout Magazine pour la branche verte, et puis Sachem qui continue à perdurer pour les aînés, chefs et aînés. Durée remarquable, donc une vingtaine d'années d'existence, plus de 2000 membres fin des années 90 quand même. Alors on a recensé 170 unités, mais souvent éphémères. Hein. On peut citer le groupe de Marseille, qui lui continue toujours, rouge et blanc, foulard rouge et blanc, Mérigny, vert et jaune, avec la Fraternité de la Transfiguration, Riaumont, qui continue à se développer à cette époque-là, et puis d'autres. Hein. Et tout ça va prendre un coup terrible en 98 par le fameux accident de Perros-Guirec
Bien
à
sûr.
l'été 98.
Cet accident, vous pouvez nous en parler un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui ne connaissent pas?
Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'aucun des survivants ou des troupes de l'époque, des scouts de l'époque, n'est encore produit son propre récit, ce qui est très intéressant, mais on l'a vu à travers un peu, le prisme déformé des médias qui ont bien sûr accusé l'abbé Cottard de tous les maux. C'est vrai qu'il était le BAFD, mais il avait assumé et couvert son chef de troupe, mais c'est pas lui qui était chef de troupe. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est un accident de scout marin qui a coûté la mort quand même à quatre d'entre eux. Ce qui a surtout eu comme conséquence de durcir la législation scout des camps sous tente. Hein. On a même eu à ce moment-là un ministre communiste de la jeunesse et sport, il ne faut pas l'oublier, hein, Marie-Georges Buffet. Et du coup, ça a beaucoup compliqué pour tous les mouvements, et tous les mouvements ont subi des conséquences indirectement, même dans leur recrutement. Ça a eu comme conséquence donc, que ce nom de Cateau de France est devenu trop difficile à porter devant les fonctionnaires Jeux et Sports. Et c'est comme ça que vont se lancer les scouts d'Oran. Les scouts de Riaumont ayant déjà pris leur autonomie un petit peu avant.
Donc, si justement, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur les scouts et guides catholiques de
Et
France.
bah, c'est très curieux parce qu'il y a une fin discrète dans les années Covid que personne n'a remarqué, qui a été actée en décembre 2020 en fait. Parce que l'association a continué à exister, mais après la création des scouts de Doran, mais sans unité ni camp déclaré. Donc seulement en fait pour des questions de revue, comme SACEM, ou un petit local immobilier à Paris, tout près de chez Pierre Monnet. Mais en fait, c'est les Riaumont a continué son petit bonhomme de chemin et les scouts de Doran le leur. Et c'est comme ça qu'en fait, on a. Enfin, on en reparlera des scouts de Doran hein, dans un prochain entretien, je pense. Mais il y a quand même une filiation assez logique entre les Saint-Georges, les Cateaux de France et Riaumont, en fait.
Alors justement, si on passe à Riaumont, quelle est cette ligne directrice entre les différents mouvements? Je crois que ça tient au père Albert Revet, qui est le fondateur de Riaumont et qui était déjà présent parmi les fondateurs
Oui, on les trouve au
de Saint-Georges.
Saint-Georges, on les trouve à la Fondation des Cathos de France. Albert Revet était un prédiocésain, aumônier d'un clan de routiers à Calais, et puis la troupe Scout de France à Lens, où il était nommé. Hein. Il deviendra plus tard oblat de l'abbaye de Faucombeau au temps de Don Roy. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui on est Scout de Riaumont, mais moi quand je suis arrivé, je me rappelle encore au cours d'honneur ou dans les grandes cérémonies, on avait l'étendard. Des Saint-Georges ou plus tard des Cateaux de France, et puis un étendard vert à croix blanche marqué Riaumont 1960. Et c'est en fait l'étendard Riaumont au Scout de France en 1960, effectivement, la création de Riaumont. Pour nous, on est toujours Scout de France, si vous voulez. Sauf que si je dis ça aujourd'hui, les gens ne comprendront pas et feront même un contresens. Mais l'idée des Scouts de Riaumont, ce n'est pas de créer un énième mouvement, c'est de pouvoir continuer la tradition qu'on a vécue et héritée du Père Sevin, tout simplement. D'autant plus que, effectivement, le père Revet faisait partie de ces pionniers de la Sainte Croix de Jérusalem masculine, hein, que le prieur à l'époque, général, qui était Monseigneur Jean Rupp, avait regroupé autour de lui, hein, pour réaliser cet ordre scout que lui avait confié aussi un peu le père Sevin.
Oui, parce que Riaumont, ça a cette particularité que c'est à la fois un ordre religieux et ensuite un mouvement scout
Tout à fait.
qui sont liés. Comment
Alors, qui
cette
chronologiquement
articulation?
sont peut-être dans un ordre différent, mais en quoi que. Ce qui est sûr, c'est que Riaumont, oui, c'est à la fois un village de jeunes, pour les jeunes, une œuvre apostolique pour les enfants, à la fois, bien sûr, un ordre scout et religieux, c'est le cœur du village. Et puis autour, et bénéficiant, et ça fait partie intégrante de notre pédagogie, et même de notre spiritualité, les scouts de Riaumont. Donc c'est vrai que selon l'aspect qu'on considère, on va retrouver les trois éléments. La réforme des scouts de France est intervenue en 1964, donc, comme on l'a dit, avait été refusée par d'autres. Hein. Je vois qu'à côté de chez nous, on avait les scouts de l'Artois, par exemple, avec la première et deuxième Saint-Omer, qui après ont rejoint les SUF fin 1974. Mais Riaumont, en fait, a cherché à garder la méthode qu'il pratiquait des Scouts de France, comme d'autres, à travers des vicissitudes historiques, si vous voulez. Mais on est passé au Mont-Saint-Michel. Les Scouts d'Europe viennent de fêter une belle assemblée générale là-bas. En 66, on a regardé les revues du Scout d'Europe. On voit le père Revet à côté de Péric Géraud-Garraud à bénir les promesses au Mont-Saint-Michel. On a participé à la création des Scouts Saint-Georges, je vais dire en 68, puis à l'Association française des scouts et guides catholiques en 80. Mais pour nous, on est toujours Scouts de France et on ne cherche pas, encore une fois, à multiplier les associations. Simplement, c'est par les besoins historiques. Je prends un exemple. On a un coutumier qui a rassemblé les traditions, les us et coutumes. Donc après la mort du père Revet, on a senti besoin d'écrire cela. Mais on n'a pas de cérémonial. Pendant des années, près de 60 ans après, on est seulement en train d'imprimer la première édition de notre cérémonial. Parce que pour nous, c'était évident qu'on avait scouté un scout de France, sauf qu'on s'est rendu compte quand même que ce qu'on trouvait dans les brocanteurs, il y avait presque 7 éditions différentes du CRS Scout de France. Il y a un moment, il fallait quand même trancher. Mais il ne s'agissait pas de créer quelque chose de nouveau, il s'agissait seulement de garder la substantifique moelle. Et voilà pourquoi on n'a pas cherché pour nous, c'était. Mais bon, l'histoire du scoutisme a continué Vous savez, 40 ans, c'est le temps qu'il y a entre le premier coup du Percevin jusqu'à la Réforme. Et depuis la Réforme jusqu'à maintenant, il y en a plus maintenant, l'histoire a continué. Donc c'est pour ça que votre podcast est intéressant, parce que toutes ces petites associations, tous ces essais, ou ces grandes associations dont les effectifs se chiffrent à 4 ou 5 chiffres, là, effectivement, là, elles sont héritières d'une histoire qui a ses racines dans cette crise, en fait.
Bien sûr. Et donc pour continuer sur l'histoire de Riaumont, donc les spécificités, c'est de garder vraiment la ligne directrice du Percevin. Quelles sont les spécificités au niveau de l'uniforme, par exemple ?
Alors oui, c'est vrai que comme on a un foyer d'enfants, au foyer, plutôt que raccommoder les culottes de velours, le père Revet a fait le choix d'une culotte de cuir tyrolienne assez solide, et les scouts l'ont adopté aussi. Sinon, il y avait aussi la particularité. On a relancé un peu la mode entre guillemets du chapeau scout, puisque dans les années, le béret avait pratiquement tout supplanté, et même chez les SUF, on l'a vu revenir. On avait une bande scout de Riaumont qui est apparue, j'ai regardé les photos, dès 92, alors que l'association des scouts de Riaumont ne sera déclarée qu'en 99.
Ouais,
donc c'est pour ça que c'est amusant de voir qu'en fait on disait déjà scout de Riaumont même au sein des cathos de France, sans que l'association n'existe de fait, enfin des jurés en tout cas, mais de facto c'était comme ça. J'ai parlé du foyer, il y a eu effectivement la question des spahis avec leur chemise bleue et leur calot rouge là. Ça correspond à un besoin spécifique, une structure spéciale. À partir du moment où il y a une maison d'éducation scout où tous les jeunes campent l'été. Il s'agit de respecter le nécessaire volontariat avant d'accéder à l'engagement de la promesse, de l'idéal scout. Et donc, pour pas qu'il y ait de jalousie, etc., ils avaient leur propre uniforme, leur propre tradition, comme dans d'autres maisons d'éducation, d'ailleurs, qui avaient essayé de faire du scoutisme. Et dans les années après-guerre, ça a beaucoup influencé le milieu de la rééducation, comme on disait. Voilà. Mais ça, c'est propre, effectivement, au fait que les enfants étaient placés chez nous, et que pour bénéficier d'une pédagogie scout adaptée, on ne pouvait pas en faire des scouts de force, bien sûr. Et donc, par contre, on pouvait leur proposer des grands jeux, des installations, des activités en patrouille, dans la mesure où ils méritaient confiance, mais avec un scoutisme adapté à un milieu populaire et à leurs propres besoins.
Et aujourd'hui, que représente le mouvement des scouts de Riaumont ?
Alors en effectif, on est plus de 600 adhérents, répartis en trois gros groupes. Alors quand je dis groupe, je parle comme des SUF avec garçons et filles, quatre unités, avec un seul clan et un seul feu, mais qui fait bien l'unité justement de ces trois groupes. Je ne veux pas développer plus tant qu'on n'aura pas plus de religieux ou de prêtres pour l'aumônerie. C'est important pour nous de la présence permanente et effective de l'aumônier au camp. Ce qui exigeait les scouts de France autrefois et qui devient de plus en plus difficile à réaliser, bien sûr. Notre institut religieux a été reconnu canoniquement quand même par le pape Jean-Paul II en 91. Hein. Maintenant, on s'appelle plus Sainte-Croix de Jérusalem, mais Sainte-Croix de Riaumont, mais qui reste au service de la jeunesse pour le scoutisme et par le scoutisme aussi, comme le voulait le Percevin. Donc cet ordre scout est quand même réalisé depuis plusieurs dizaines d'années, concrètement. Même s'il reste bien sûr bien imparfait et qu'on n'est qu'une petite patrouille de moines scouts, puisqu'on n'est que 8 ou 9, et on prie Dieu justement qui envoie des vocations.
Bien sûr. Est-ce que qu'on pourrait terminer par évoquer la spiritualité scout qu'a développée Riaumont ?
Alors, j'espère que ce n'est pas que Riaumont, mais c'est vrai qu'on en est un petit peu dépositaire, ne serait-ce que par les écrits que nous a laissés le Mgr Rupp et du Percevin. C'est sûr que ça n'aurait aucun sens si le scoutisme n'était pas aussi une spiritualité, aussi parce que il a différentes dimensions, mais pour un religieux, c'est pour nous capital, et on témoigne par notre propre vie, et Rome a parlé maintenant, on n'est pas les seuls d'ailleurs, mais qu'il y ait une spiritualité scout qui existe, comme l'avait entrevu le père Sevin et Joan Cornet, mais quand il le disait à l'époque, c'était prophétique. Maintenant, 100 ans après, on peut dire que c'est dans les faits que ça se prouve. Alors, ça ne peut pas être bien sûr différent du scoutisme, hein, et une des clés, et on a développé ça dans deux livres déjà, J'en vois Seigneur et Chef, là, qu'on a publié récemment. Une des clés, c'est comme disait Ben Powell, le témoignage du frère aîné à la relation chef qui n'est pas ni du laisser-aller, ni encore moins du fascisme, mais qui se situe à la fois dans un rapport de proximité, frère, fraternité, et à la fois frère aîné, un rapport d'autorité et d'exemplarité. Comme le Christ l'a incarné, en fait, il s'est fait notre frère, hein, faut lire les Épîtres aux Hébreux, comme les apôtres l'ont vécu sur les routes de Palestine avec lui. Et c'est ça qui nous. Toute spiritualité doit d'abord mener au Christ, hein, et c'est comme ça que nous, on le suit avec la grâce de Dieu.
Un grand merci, mon père, pour tous ces détails.
Je donne rendez-vous au prochain entretien, parce qu'il y a aussi plein de petites associations passionnantes à découvrir, mais j'espère que vos auditeurs verront dans tout cela, justement, non pas un éparpillement, mais une richesse.
Bien sûr, nous nous retrouverons dans un prochain épisode pour en parler de tous ces autres mouvements traditionnels que nous n'avons pas encore évoqués. Je vous remercie déjà pour tout ce que vous nous avez appris jusque-là. Et je donne rendez-vous pour notre prochain épisode à tous nos auditeurs. Merci, mon père.